questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vos questions, nos réponses. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Aujourd'hui, suite d'une nouvelle série d'émissions consacrée aux symptômes de la maladie d'Alzheimer. Et aujourd'hui, suite de votre nouvelle série d'émissions consacrée aux symptômes de la maladie d'Alzheimer, ce quatrième épisode sera consacré aux difficultés à réaliser des séquences de gestes. Et notre invitée pour cette série d'émissions, c'est Judith Mollard-Palacios, la psychologue de l'association France Alzheimer. Bonjour Judith.
Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous.
Alors avant toute chose, Judith, quand on parle des troubles de gestes, de quoi s'agit-il exactement ?
Il s'agit de deux choses. C'est d'abord la difficulté progressive à réaliser des gestes dits symboliques. Par exemple, dire au revoir de la main, envoyer un baiser, ce sont des gestes qui ont été acquis, appris, mais qui ne sont plus, qu'on ne peut plus réaliser. La personne ne sait plus faire. Alors, ça a peu d'impact sur la vie quotidienne, mais par contre, les deuxièmes difficultés, c'est la réalisation donc de séquences de gestes que nous utilisons à tout moment dans notre quotidien. Des séquences de gestes qui doivent se dérouler toujours dans le même ordre et de la même façon pour arriver à un but final. Par exemple, se brosser les dents, s'habiller, réaliser une séquence de cuisine. Voilà, tout ça sont des apprentissages qui mobilisent le sensorimoteur, mais qui ont été mis en mémoire, qui ont été procéduralisés. Et ensuite, quand on les réalise, on ne se demande pas comment il faut les faire. On sait exactement dérouler chacune des séquences les unes après les autres pour finaliser notre action. Et donc, dans la maladie d'Alzheimer, et dans, alors pas au tout début de la maladie, mais dans son évolution, eh bien, à un moment donné, la personne, c'est pas qu'elle a des troubles moteurs, elle peut tout à fait faire marcher ses membres et ses muscles, mais elle ne sait plus organiser toutes ces séquences les unes après les autres. Elle va progressivement avoir des difficultés donc pour réaliser de façon cohérente et adaptée tout un tas de gestes du quotidien.
Alors maintenant qu'on sait de quoi il s'agit, comment se manifestent ces troubles et au bout de combien de temps ?
Alors, c'est vraiment des symptômes qui arrivent à un stade déjà évolué de la maladie. Ce ne sont pas des difficultés a priori qui arrivent en début de maladie. Et ce sont des symptômes qui, assez rapidement, dans leur évolution, vont avoir une incidence importante sur l'autonomie de la personne, puisque tous ces gestes du quotidien organisent nos activités de toilette, d'habillage, de préparation du repas, etc., etc. Ce qui se passe au début, c'est que la personne peut réaliser ces séquences, mais de manière plus aléatoire. Elle peut encore faire des choses, mais peut-être qu'elle va oublier certaines séquences. Par exemple, se laver le corps ou le visage avec un gant de toilette, mais en oubliant d'y mettre le savon. Petit à petit, les choses vont être de moins en moins précises. Et pareil pour des séquences qui concernent le repas. Ça va être de plus en plus réduit et peut-être même mettre en échec la possibilité donc d'aller jusqu'au bout de la séquence. Ce qui est important, c'est de ne pas du jour au lendemain tout faire à la place de la personne qui risque en plus d'y résister et de ne pas comprendre ce qui se passe. Ce que l'on peut faire au début, c'est redonner les consignes pour que la personne réalise et n'oublie pas une séquence dans un acte de la vie quotidienne. Donc de pouvoir lui rappeler finalement oralement, sans faire à sa place, mais chacune des séquences. Ce qui est important aussi, c'est de simplifier les séquences, de faire en sorte que la personne n'ait à disposition que les bons objets à choisir pour réaliser une séquence. Par exemple, pour se brosser les dents, il vaut mieux qu'il n'y ait sur la tablette du lavabo que la brosse à dents et le dentifrice pour que, eh bien, il n'y ait pas un choix à faire où elle risquerait, hein, en effet, de se tromper, par exemple en utilisant le tube de crème pour le visage, hein, et en le mettant sur la brosse à dents. Donc de vraiment aussi simplifier l'environnement et simplifier les tâches aussi à effectuer par rapport à la préparation du repas. Elle va pouvoir encore, hein, si on lui en donne la consigne, réaliser des séquences simples comme eh bien, d'éplucher des carottes ou de couper, hein, des tomates, à partir du moment où on lui donne le bon outil et on lui donne la consigne à réaliser. Ensuite, ce qui peut parfois aider aussi, c'est de mimer, hein, le geste devant elle. On voit que dans l'évolution, hein, des troubles praxiques, des troubles des gestes, on peut aller jusqu'à la difficulté à utiliser, par exemple, ses couverts pour manger. On ne sait plus, d'une part, choisir, hein, le bon couvert pour tel ou tel aliment. Et ensuite, le geste à effectuer peut être pas présent. Et donc, la personne peut, par imitation, hein, en vous voyant faire en face d'elle, eh bien, mimer et retrouver quelque chose de l'automatisme du geste. Et puis, malheureusement, eh bien, il y aura véritablement un moment, hein, où ces séquences de gestes ne seront plus possibles et où il faudra faire à la place de la personne, c'est-à-dire lui donner à manger ou l'habiller. Pour la séquence de l'habillage, il est utile aussi de préparer les vêtements dans le bon ordre, c'est-à-dire de faire une pile en mettant au-dessus, hein, les sous-vêtements, puis le t-shirt ou le pantalon, puis d'organiser la séquence pour simplifier au mieux les choses et que la personne puisse s'y retrouver.
Alors, si on doit se concentrer sur la personne malade, se rend-elle compte de ces symptômes ?
Alors, comme c'est quand même des symptômes qui arrivent, hein, pas de façon précoce dans la maladie, mais plutôt de façon, un stade modéré, voire évolué de la maladie, on peut imaginer, mais bon, que peut-être, hein, la conscience, hein, de ce qui n'est plus, de ce qui est perdu, est peut-être un petit peu moins vive qu'elle ne l'est au début de la maladie. Cependant, c'est une perte d'autonomie importante, hein, quand on n'a plus la possibilité de réaliser les gestes du quotidien. Et ça, on ne peut pas penser que la personne n'en souffre pas, enfin que c'est une atteinte, bien entendu, à son autonomie et que la participation active, hein, d'aidants familiaux ou professionnels à ces moments-là est vécue par certaines personnes, en tout cas avec beaucoup de difficultés. Et c'est ce qu'on appelle les refus de soins, hein, quand la personne s'oppose à l'aide qu'on doit lui apporter et qui est pourtant nécessaire. Et on voit surtout ça au moment de la toilette ou du coucher, qui sont des moments de plus grande intimité, où on est mis à nu, hein, au sens propre et figuré, à ce moment-là, et où ça, c'est pas toujours facile, en effet, de créer un climat de confiance, de sécurité suffisant pour que la personne adhère et finalement fasse confiance à l'aidant, hein, pour réaliser ses séquences.
Alors justement, ne plus faire face aux gestes du quotidien, cela complique évidemment pas mal de choses pour les aidants, pour les proches. Comment faire face à cette situation ?
C'est souvent, hein, ce que l'on recommande aux aidants, c'est-à-dire de ne pas se laisser déborder, hein, par l'aide à apporter à leurs proches malades et de pouvoir le plus possible passer le relais et intégrer, hein, progressivement, mais des aidants professionnels, d'autant plus que par rapport aux soins de toilette, hein, c'est pas toujours facile pour la personne malade d'avoir son aidant proche dans cette situation, notamment quand il s'agit des aidants enfants qui du coup, hein, se retrouvent dans une proximité corporelle avec leurs parents qui est tout à fait inhabituelle, hein, et qui est peut-être très mal vécue de part et d'autre. Donc progressivement intégrer des aidants professionnels, en plus bon, c'est la compétence, hein, qui ont acquis une expertise pour proposer ces soins du quotidien le mieux possible. Et je crois que ce qu'il faut aussi, c'est vraiment faire que ces aides n'arrivent, enfin, n'arrivent pas trop tard, mais arrivent aussi de façon progressive. Qu'on se donne le temps qu'une relation de confiance puisse se créer entre la personne et les professionnels, et que petit à petit, ces professionnels puissent aller de plus en plus loin hein, dans l'aide à apporter. Je crois que c'est important de ne pas se retrouver dans la précipitation, dans l'urgence, qui évidemment est une situation beaucoup plus difficile à vivre pour la personne malade.
On a déjà vu plusieurs symptômes hein, dans ces émissions, Judith. Est-ce que celui-là, c'est le trouble finalement qui engendre la plus grande perte d'autonomie ?
Certainement, hein, bien sûr, parce que on se rend compte que depuis notre réveil le matin jusqu'au coucher le soir, on a de cesse hein, d'organiser notre vie, notre quotidien, à travers toutes ces séquences hein, de gestes qui ont été acquis et qui à un moment donné donc ne sont plus accessibles. Enfin, et on est obligé de s'en remettre de plus en plus à ce moment-là aux autres, hein. Notamment dans des stades évolués de la maladie, quand on doit être nourri, hein, quand on doit être habillé, où là, on n'a plus aucune autonomie.
Merci beaucoup, Judith Mollard-Palacios, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour l'épisode 5. Il sera consacré aux troubles de la reconnaissance. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Vous pouvez réagir, poser vos questions, bien entendu, sur l'espace commentaire. C'est juste en dessous ce player, ou alors sur la page Facebook de l'association France Alzheimer. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio, ou la page de la radio, www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.